Le journal d'Amélie Gerber.
Bonjour, l'affiche du Chant du Gros a été dévoilée. Ce matin, le festival accueillera notamment Axel Red, Gazo, Soprano ou encore Vita sur ses terres franc-montagnardes. Une 33e édition qui se tiendra sur 3 soirs du 11 au 13 septembre au Noirmont. Le conseil communal de Delémont veut continuer à serrer les boulons des finances. La nouvelle version du budget 2025 prévoit un léger déficit, mais au prix de plusieurs mesures d'économie. Le maire de Delémont, Damien Chapuis, sera l'invité du journal. L'Eurovision emploie les grands moyens en termes de sécurité. Police cantonale, fédérale et des militaires sont au pied levé à Bâle pour le concours de la chanson. Des grands moyens employés pour un événement qui reste une potentielle cible politique. Le temps restera instable et humide tout au long de la journée. Quelques averses, parfois orageuses, ne sont pas exclues dans l'après-midi. Des pluies qui persisteront ce soir et cette nuit. Le Chant du Gros lève le voile sur sa programmation. Le Festival de musique franc-montagnard a présenté ce matin la liste des artistes qui se produiront au Noirmont du 11 au 13 septembre. Cette 33e édition sera marquée par un vent de fraîcheur. 68% des chanteurs et groupes découvriront la manifestation jurassienne. C'est le cas de Jean-Louis Aubert en solo, des Fatal Picard, des Gypsy Kings, d'Axel Red ou encore de Gazo et de Fatal Bazooka. Le festival a aussi réalisé une promesse faite suite à l'édition de 2020, annulée à cause du Covid, avec l'envie de plaire à un large public, le patron du Chant du Gros, Gilles Pierre.
Je pense qu'on a essayé de faire un mélange qui convienne à toutes les générations. Et puis, alors je ne dirais pas tous les styles, parce qu'il n'y a pas de hard rock, il n'y a pas de folk, il n'y a pas de country. Mais essayer de le plus large possible et que tout le monde trouve au moins un concert qui lui plaise. On a des artistes de découverte, on a des artistes plutôt reconnus. Et puis, on est content parce qu'il y a 3 artistes qu'on a programmés, qui étaient prévus lors de l'édition Covid, qui sont les 3 artistes, les 3 derniers qu'on n'a pas réussi à reprendre et qui viennent enfin cette année, c'est Jean-Louis Aubert, donc très très heureux de l'accueillir, et c'est la première fois qu'il vient en solo au Chant du Gros. C'est également Soprano qui était confirmé, et on avait Vita et Slimane. Slimane est passé l'année passée, donc Vita vient cette année, donc comme ça la boucle est bouclée et tous les artistes qui étaient confirmés l'année Covid auront joué au Chant du Gros. Alors ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes qui viennent pour la première fois, et l'année passée ça avait très très bien fonctionné, les gens étaient contents de les découvrir, et puis on essaye quand même d'aller prendre des nouveaux artistes et des artistes qui sont jamais venus au Chant du Gros. Je pense que c'est plutôt sympa de les voir pour la première fois. Après, il y a des artistes qu'on accueille avec grand, grand bonheur et qui reviennent aussi quelques années après quand même. Mais Kyo, par exemple, qui avait enflammé le festival il y a quelques années en arrière, revient sur une tournée anniversaire et on est très, très content de les accueillir à nouveau.
La programmation complète du 33e Chant du Gros est à découvrir sur notre site internet rfj.ch. La billetterie ouvrira ce mercredi matin. Delémont ne risque plus la mise sous tutelle financière à court terme, mais poursuit les efforts pour assainir ses finances. Le conseil communal a présenté ce matin une deuxième version du budget 2025 à la suite du rejet par le peuple de la première mouture, qui comprenait une hausse de la fiscalité. Les nouvelles prévisions tablent sur un léger déficit de 227 350 francs. Un déficit que la ville peut se permettre, puisque le découvert au bilan pourrait être résorbé par des recettes fiscales extraordinaires en 2024, et la revalorisation de 2 biens communaux. Le nouveau budget 2025 intègre toutefois plusieurs mesures d'économie, puisque la ville se trouve toujours en situation de déficit structurel. François Comte.
Oui, le conseil communal a renoncé à toute hausse de la quotité d'impôt dans le deuxième budget 2025, mais il a conservé toutes les mesures d'austérité contenues dans la première version. La réduction des effectifs de l'administration est ainsi poursuivie, avec 183,6 EPT prévus. De même, la diminution de la masse salariale globale de 200 000 francs est également maintenue. Les hausses de taxes sont aussi conservées, mais tout cela s'avère insuffisant. De nouvelles mesures d'économie ont ainsi été décidées. Les subventions aux clubs, associations et institutions culturelles et sportives ont été revues à la baisse. La diminution se monte à 5% pour les grandes structures comme Delémont BD, le musée jurassien d'art et d'histoire, et à 10% pour les structures plus petites. Plusieurs hausses tarifaires sont aussi prévues, notamment pour les locations de salles, les entrées aux piscines ou encore le stationnement. Elles s'accompagneront de réductions d'horaires d'ouverture. Enfin, une ponction de 1% de la masse salariale sera par ailleurs opérée sur le 13e salaire dans la fonction publique. La mesure est compensée par l'octroi d'un jour de congé supplémentaire.
Pour prolonger la discussion, nous recevons en direct le maire de Delémont.
Damien Chapuis, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous qualifiez cette nouvelle version de budget d'austérité ?
Non, je ne pense pas que ça soit un budget d'austérité. On a reçu un message de la part de la population le 9 février dernier qui nous a demandé deux choses, de faire avec ce que l'on avait. Et d'autre part, c'est les messages qu'a reçu le conseiller communal de ne pas augmenter la quotité d'impôt. Donc derrière, voilà, on a un certain montant pour les revenus qui sont à notre disposition. Et il a fallu revoir la voilure, reprendre certaines mesures, effectivement, pour pouvoir continuer de proposer les prestations que l'on peut proposer à l'ensemble de la population de Lémontaine, comme vous venez de les citer.
Si on prend un exemple, celui de la réduction des subventions, alors 10% pour les petites structures, 5% pour les plus grandes, est-ce que ce n'est pas injuste quelque part ?
Non, on a voulu faire une analyse pour regarder exactement ce que recevaient les grandes structures et puis de proposer une diminution effectivement de 5% parce que la masse qu'il ne leur sera pas octroyée correspond à un montant supplémentaire et puis de péjorer peut-être un petit peu plus mais sur des montants somme toute moindres pour les plus petites associations. Si on fait la globalité de ces mesures sur l'ensemble des associations, on arrive grosso modo à 50 000 francs. Donc on a estimé que c'était encore supportable. Certes, c'est un effort qui est demandé. On n'est pas fier de demander cet effort, mais c'est un effort qu'on estime supportable pour l'ensemble des sociétés sportives et culturelles, si tant est qu'on n'ait pas de revenus supplémentaires à disposition.
50 000 francs, est-ce que finalement le jeu, entre guillemets, en vaut la chandelle, alors que ça pourrait peut-être mettre dans des difficultés des associations, des institutions ?
Bien sûr qu'il vaut le jeu en vaut la chandelle, parce que la responsabilité de l'exécutif à ce moment-là, c'est d'arriver avec différentes propositions. On n'a pas d'augmentation d'impôts, donc derrière, on doit regarder comment est-ce que l'on peut subvenir à l'ensemble de nos charges. Donc il était nécessaire de diminuer certaines charges. Ce n'était pas prévu dans la première mouture du budget avec l'augmentation de la quotité d'impôts. Derrière, on a certaines obligations et certaines responsabilités. Le paquebot a changé de cap, il faut pouvoir le maintenir, pouvoir arriver à des résultats, somme toute, à l'équilibre sur les prochaines années. Et pour pouvoir y arriver, on a besoin d'une contribution, d'un partage de l'ensemble de la population de Lémontaine.
Autre mesure qui risque de faire jaser, c'est cette ponction salariale de 1% sur le 13e salaire dans la fonction publique. Est-ce que c'est vraiment au personnel de payer les frais des difficultés financières de la ville ?
Actuellement, on a regardé ce que l'on pouvait faire sur l'ensemble des partenaires. Donc on a parlé des contributions aux clubs sportifs, aux sociétés culturelles ou autres. On regarde également ce que s'y passe au niveau de l'économie. Entre les deux versions du budget, on a remarqué que les recettes fiscales, indépendamment de la hausse ou non de la quotité d'impôt, sera la baisse. La conjoncture n'est pas bonne actuellement et on a une responsabilité, bien qu'on soit sorti du découvert au bilan par l'intermédiaire des comptes 2024, de ne pas y retourner. Donc effectivement, on demande un effort aux collaboratrices et collaborateurs de la municipalité. On sait l'énorme travail qui a été effectué ces dernières années et on demande une contribution de solidarité sur l'exercice 2025. Il n'y a pas forcément de volonté de la répercuter sur les exercices futurs pour qu'on puisse se rapprocher le plus possible de l'équilibre budgétaire.
Politiquement, l'État, ça paraît quand même compliqué de faire passer ce budget tel quel au Conseil de ville le 26 mai prochain. Est-ce que vous attendez un détricotage et dans quelle mesure ?
Oui, alors on s'y attend, bien évidemment. La Commission des finances et les partis politiques ont déjà fait le jeu par l'intermédiaire des médias ou autres de donner un petit peu leur avis par rapport à cela. Le Conseil communal avait une responsabilité suite à la votation du 9 février dernier, c'est d'arriver avec un nouveau budget. Ce qu'il a fait, il l'a transmis à l'autorité compétente, le Conseil de ville. Le Conseil de ville en débattra lors de la prochaine séance du 26 mai prochain et il arrivera avec un budget qui sera peut-être remodelé sur les aspects qu'il juge nécessaires. La volonté du Conseil communal, c'est qu'au soir du 26 mai, nous soyons à même de présenter, d'avoir un budget à disposition de l'administration de Lémontaine. Je crois que c'est ça vraiment l'objectif que l'on doit atteindre à ce moment-là et de pouvoir disposer d'un budget, c'est absolument nécessaire.
Damien Chapuis, maire de Delémont, merci d'avoir été en direct dans ce journal pour commenter le deuxième budget 2025 de la ville. Bonne journée.
Merci de même à vous.
1300 policiers de différentes polices cantonales, fédérales et une quarantaine de militaires. Surveillance vidéo du site. L'Eurovision, qui se déroule cette semaine à Bâle, fait l'objet d'un gros dispositif de sécurité. Près d'un demi-million de visiteurs sont attendus pour ce concours Eurovision de la chanson. Les services de sécurité, tant cantonaux que fédéraux, sont sur les dents pour l'événement qui constitue potentiellement une cible politique. Notre correspondante à Berne, Marie Vuillemier, revient sur les raisons d'un tel dispositif.
L'Eurovision est considérée comme un événement à haut risque pour les autorités fédérales qui craignent notamment des débordements, des attentats et des cyberattaques. Les précisions de Florian Schütz, le directeur de l'Office fédéral de la cybersécurité.
Dans l'histoire de l'Eurovision, on voit aussi que c'était toujours un peu... On a essayé de donner les... parole politique avec le Eurovision, et là aussi pour manipuler les systèmes techniques, pour les utiliser pour faire la propagande. Et ça, on ne veut pas. On veut, comme Suisse, que le ESC en Suisse est assez sécurisé et qu'ils peuvent se présenter comme ils veulent.
Comment vous vous êtes préparé plus globalement pour l'Eurovision ?
L'Eurovision, c'est à Bâle. Et là, on a aussi la France. On a par exemple l'aéroport qui est à la côté France. On a aussi des événements en Allemagne. Alors, on s'aligne avec nos partenaires en France et à l'Allemagne. Et ça joue vraiment bien. On travaille très proche avec les polices en Suisse, aussi avec les opérateurs, le SRG. Là, c'est notre rôle vraiment de travailler avec tout le monde et de le faire plus facile, d'échanger les informations et en cas d'attaque, de s'organiser.
Et si tout à coup il y a une attaque, vous avez un protocole précis ?
Oui, on a un protocole. Là, c'est toujours les opérateurs qui sont responsables pour tout, mais on supporte avec des informations et on s'aligne sur la communication, par exemple, parce que c'est important qu'on communique correctement.
L'Eurovision est identifiée comme l'une des manifestations les plus risquées cette année en Suisse, avec l'Eurofoot féminin. Les coûts pour la sécurité et les secours devraient s'élever à près de 8 millions de francs.
Notre correspondante à Berne, Marie Vuillemier, revenait sur la sécurité autour de l'Eurovision qui s'ouvre demain à Bâle. Détente majeure dans les relations entre la Chine et les États-Unis, les pourparlers de ce week-end à Genève ont porté leurs fruits. Les deux pays ont annoncé ce matin suspendre pendant 90 jours les droits de douane punitifs instaurés ces dernières semaines. La taxe sur les produits américains importés passe de 125 à 10 % celle sur les produits chinois importés de 145 à 30 % Les États-Unis ont maintenu un taux plus élevé pour protester contre les exportations chinoises de composantes pour la fabrication de fentanyl. La situation entre les deux puissances mondiales est apaisée, mais ce n'est que provisoire, l'analyse de notre correspondante parlementaire Marie Vuillemier.
Chinois et Américains se sont montrés optimistes devant les médias et ils ont rédigé une déclaration commune. C'est bon signe, mais tout va se jouer ces prochains mois. Les deux pays vont entamer des négociations qui s'annoncent rudes dans un contexte économique et politique instable. Et on ne sait pas si la Suisse va continuer de jouer ce rôle de médiateur, mais c'est déjà un succès pour le Conseil fédéral qui a réussi à imposer ses bons offices entre les deux puissances. Reste à savoir si cela sera bénéfique pour le pays. La présidente a profité de la rencontre Chine-États-Unis pour discuter vendredi avec le secrétaire américain au Trésor et le représentant au commerce. Karine Keller-Souter a affirmé que les Américains étaient d'accord d'accélérer le processus. Elle souhaite présenter une déclaration d'intention à Washington d'ici 2 semaines. Mais on est encore loin d'un début de négociation. Et les droits de douane de 31% que les États-Unis veulent imposer à la Suisse ne sont suspendus que jusqu'au 9 juillet.
La détente entre la Chine et les États-Unis ont rassuré les investisseurs. La bourse européenne a tout ouvert à la hausse ce matin, sauf la bourse suisse, plombée par l'annonce de Donald Trump de réduire drastiquement les prix des médicaments. Le Conseil fédéral accueillera mercredi la présidente du Kosovo. En visite d'État en Suisse pour 2 jours, Vjosa Osmani-Sadriou sera reçue avec les honneurs militaires par le gouvernement. La présidente de la Confédération, Karine Keller-Souter, doit s'entretenir avec elle sur les échanges économiques, la présence suisse au Kosovo ou encore des questions de sécurité et de migration.
Vous écoutez RFJ, les 12h29.
RFJ, sport.
Bâle a passé une nuit de liesse. On ne parle pas de l'Eurovision, mais bien du 21e titre du FC Bâle, officiel depuis hier après le match nul entre Servette et Young Boys. Les Rhénans sont sacrés à 3 jours de la fin du championnat de Super League de football. Un premier titre bâlois depuis 2017 qui porte inévitablement la patte de l'entraîneur Fabio Celestini. Analyse du jurassien Michel Koller, ancien préparateur physique et responsable de la relève du FC Bâle.
Alors, il faut peut-être se rappeler que Fabio est arrivé à quelques journées de la fin du premier tour la saison passée. Le FC Bâle était en très mauvaise posture. Il a réussi à mettre une certaine ligne, un certain style, une certaine méthodologie aussi dans ce qu'il a fait. Et puis, ils se sont sauvés à 3 journées de la fin. Cette saison, je pense que la grande force de Fabio, c'est d'avoir pu convaincre son président de ne pas faire des changements incessants de joueurs, d'achats, de ventes. Et la stabilité du groupe a permis aussi de pouvoir travailler sur la saison.
Impossible de ne pas évoquer aussi l'attaquant Sherdan Shaqiri qui a fait son retour dans sa ville en août dernier. Il a encore inscrit un triplé ce week-end. C'est évidemment aussi l'un des grands artisans du titre.
C'est vrai que l'avenue de Sherdan Shaqiri après 4 journées, c'est un petit peu un pari. Le FC Bâle est coutumier du fait. Par le passé, des joueurs comme Benjamin Hugel, comme Alex Frey, comme Fabian Frey sont revenus terminer leur carrière au FC Bâle. Et puis, c'est vrai que peut-être le fait pour ce joueur de se retrouver dans son environnement familial avec un contexte qu'il connaît, se sentir bien. Je pense que la gestion par Fabio Celestini de Sherdan Shaqiri a aussi été bonne. Leur concurrent IB avec Christian Fasnacht a presque réussi un coup identique. Le deuxième tour de IB porte aussi un peu une marque de retour de joueurs comme ça qui ont évolué à l'étranger.
Michel Collère était l'invité de Marceline Michon dans la matinale. Retrouvez l'entretien complet sur rfj.ch. Un gros morceau pour confirmer pour l'équipe de Suisse de hockey sur glace. Elle affronte les États-Unis à 16h20 pour son 3e match au championnat du monde. Objectif, enchaîner un 2e succès après celui de samedi face au Danemark. Pour cela, la troupe de Patrick Fischer comptera sur Kevin Fiala, fraîchement débarqué en provenance de la NHL, mais aussi sur Tyler Moy. Pour son premier mondial, l'attaquant de Rapperswil a déjà signé 4 points en 2 matchs, dont un doublé face aux Danois. Originaire de Californie, il s'apprête à défier son pays natal, un rendez-vous forcément particulier, Tyler Moy.
C'est clair, ce sera une expérience unique. Avoir la chance d'affronter le pays dans lequel tu es né n'arrive pas souvent. C'est quelque chose de spécial dont je me réjouis. Peut-être que ma motivation sera encore plus grande, mais je vais essayer de rester calme et de simplement jouer un match de hockey. Je crois que c'est la meilleure chose à faire pour que ça se passe bien.
Lors des 2 premiers matchs, l'attaquant qui a hérité du passeport suisse grâce aux origines de sa mère a été associé à Nico Hischier et Timo Meyer en première ligne. Son association avec les 2 stars de la NHL a parfaitement fonctionné. Présent sur 3 des 5 réussites suisses samedi, il savoure pleinement sa présence au Danemark, Tyler Moy.
Je suis très reconnaissant d'être ici. C'est un honneur de représenter la Suisse. Avoir une telle opportunité de jouer ce genre de match dans ce genre de tournoi, c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé. J'ai travaillé très fort pour y arriver et donc encore une fois, je suis très reconnaissant. Rejoindre une équipe vice-championne du monde en titre ne me met pas de pression. Ils ont fait quelque chose de grand l'an dernier, c'est vrai, mais nous sommes plusieurs nouveaux cette année. Nous essayons de nous créer nos propres souvenirs sans réfléchir à ce qui a été fait dans le passé. Nous devons simplement penser au moment présent.
Des propos recueillis et traduits par notre envoyé spécial au championnat du monde, Christophe Morayon. Tyler Moy et l'équipe de Suisse défient donc les États-Unis dès 16h20 à Herning. C'est la fin de ce journal. Très belle journée.